Il est 10h10 à Paris. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Merci de votre fidélité. Dans 30 minutes, comme tous les matins, un débat et nous vous donnerons tout à l'heure la parole après la décision de Donald Trump de retirer les États-Unis de l'accord de Paris, accord qui a pour but de limiter le réchauffement de la planète. Alors que pensez-vous de cette décision? Quelles conséquences craignez-vous? En tout cas, depuis jeudi soir, on assiste véritablement à une union sacrée pour dénoncer ce retrait. Les réactions, vous le savez, sont très négatives à travers le monde et notamment sur le continent africain où les inquiétudes sont nombreuses, d'autant que Donald Trump a annoncé que les États-Unis ne verseront plus un dollar au Fonds vert pour le climat, un fonds destiné aux pays en développement. Vous nous rejoignez, 33 9 693 693 70. Vous nous envoyez également vos réactions sur la page Facebook de l'émission. Plusieurs centaines de commentaires postés ces deux derniers jours, j'en lirai évidemment quelques-uns tout à l'heure pour alimenter la réflexion, alimenter le débat. Par exemple, Mustapha qui parle, lui, d'une décision irresponsable. C'est une insulte pour nous, les Africains, car l'Afrique est le continent le plus vulnérable face au changement climatique. Réaction d'Abdoul Karim qui se dit indigné par la décision de Donald Trump. C'est une catastrophe pour la planète. Les dirigeants du monde entier doivent faire pression sur Trump pour qu'il accepte cet accord. Le réchauffement climatique doit concerner tout un chacun. Le débat, en tout cas au regard des commentaires qui nous arrivent au standard et sur Facebook, s'annonce passionnant. Ce sera donc dans 30 minutes, 33 9 693 693 70. Mais d'abord, comme tous les matins, vos questions pour mieux comprendre l'actualité, vos questions pour mieux décrypter les sujets que nous traitons dans nos différents journaux. Et on va commencer avec des questions sur les élections législatives au Royaume-Uni. Après l'attentat samedi à Londres, la campagne a fait une pause toute la journée hier, campagne qui reprend donc ce matin. Bienvenue, nous appelle du Bénin. Bonjour, bienvenue.
Bonjour Anne et bienvenue ici au Bénin et plus précisément à Porto-Novo.
Porto-Novo, d'où vous nous appelez. On vous écoute.
Eh bien, vous savez, Juan, cette semaine, plus précisément le jeudi prochain, les Britanniques sont appelés aux urnes pour les élections législatives anticipées proposées par la première ministre Theresa May. Eh bien, j'ai deux questions. La première, c'est celle-ci. Selon les derniers sondages, l'écart se resserre entre les conservateurs 43% et les travaillistes 38%. Qu'est-ce qui explique cette mauvaise dynamique du parti de Theresa May, puisque 20% de voix les séparaient il y a quelques semaines?
C'est vrai, vous avez raison. C'est vrai que la favorite des sondages, il y a encore un mois et demi, semble aujourd'hui avoir des difficultés dans les intentions de vote. Catherine Mathieu est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Spécialiste du Royaume-Uni, économiste à l'Observatoire français des conjonctions économiques. Je me souviens, il y a un mois, vous répondiez dans cette émission à une question, la question d'un auditeur, et vous nous disiez que Theresa May avait décidé de convoquer des élections anticipées pour renforcer sa majorité au Parlement. Visiblement, et si vous me permettez l'expression, ça chauffe aujourd'hui pour Theresa May.
Ah oui, effectivement, pour Theresa May, en fait, quand elle s'est présentée, hein, quand elle a décidé de lancer cette campagne électorale il y a un peu plus d'un mois, tout s'annonçait très bien pour elle et tout s'annonçait très bien pour les conservateurs pour obtenir une large majorité lors des élections qui vont avoir lieu ce jeudi. Mais en fait, au cours de la campagne, il y a eu plusieurs éléments qui ont progressivement fait tomber la popularité de Theresa May et des conservateurs. Et l'élément principal, c'est ce qu'on a appelé au Royaume-Uni la dementia tax, la taxe sur la démence. En fait, c'est la proposition dans le programme des conservateurs qui a été annoncée il y a quelques semaines de changer le financement de l'aide aux personnes âgées dépendantes et de durcir ces conditions et d'aller jusqu'à pouvoir prélever une partie des dépenses faites pour ces personnes dépendantes en prenant de l'argent sur les successions, ça c'est déjà possible au Royaume-Uni, mais aussi sur l'habitation, sur l'appartement, la maison. Et donc cet élément-là de la campagne a pris de l'importance dans l'électorat britannique et Theresa May s'est retrouvée à chuter dans les sondages principalement sur cette question. Elle a d'abord dit pendant plusieurs jours, nous allons maintenir cette proposition, et puis finalement elle a dit, ah non, nous allons y y réfléchir, nous allons revoir, nous allons mettre en place une consultation après les élections. Alors bien sûr, du côté des travaillistes, c'est devenu un élément fort pour dire à l'électorat britannique, attention, si vous votez conservateur, vous voyez, cette politique va être durcie, et non seulement cette politique-là, mais de façon générale, toutes les politiques sociales.
Oui, on voit bien que le travailliste Jeremy Corbyn, lui, défend la fin de l'austérité, il préconise même la nationalisation des chemins de fer, des investissements massifs dans l'éducation, dans les hôpitaux, le contraire finalement du programme de Theresa May. Ça signifie quoi finalement, Catherine Mathieu, que Theresa May a raté sa campagne électorale ?
Bien, en tout cas, sur les aspects de sociaux, oui, très très probablement, parce que elle n'a pas réussi à faire changer l'axe de discussion de la campagne, hein, parce qu'il y a énormément de questions à discuter au Royaume-Uni, mais en maintenant un cap relativement dur sur la question de la réduction des déficits publics et surtout sur le financement des dépenses sociales. Donc on parlait à l'instant de ce financement pour les personnes âgées dépendantes, mais aussi plus généralement sur les dépenses sociales et celles qui concernent les retraités, eh bien, les travaillistes, et en particulier Corbyn, ont pu axer leur axe de campagne sur ce point principal, et c'est là qu'effectivement, les travaillistes, eux, souhaitent qu'il y ait davantage de dépenses faites en matière sociale, moins de réduction des déficits publics, une hausse des impôts, et on a un grand débat hein, sur ce que doivent être les dépenses publiques au Royaume-Uni. Alors, on parle de cela il y a quelques jours avant les attentats de Londres, bien sûr, mais ce grand débat qui est vraiment l'axe majeur de la campagne. Et effectivement, Theresa May n'a pas réussi à sortir la campagne de cette question-là.
Ouais. Bienvenue, vous avez une autre question.
Oui, Juan, j'ai entendu tout à l'heure, Catherine disait, prononcer le mot attentat. Eh bien, je voudrais savoir, en même temps, ma deuxième question, quel impact le double attentat de Londres, c'est-à-dire surtout celui de ce week-end, aura sur les résultats, et si les conservateurs, le parti de la première ministre, échouent à ce scrutin, quelle est l'avenue des négociations de sortie de l'UE au lendemain de ces élections ?
Bon, on va déjà s'intéresser justement aux répercussions de l'attaque de samedi. Peut-elle avoir un impact dans les urnes jeudi prochain, Catherine Mathieu ?
Alors c'est difficile aujourd'hui de dire quel pourrait être l'impact de ces attentats. D'un côté, pour les électeurs britanniques, il y a cette question des attentats qui ont eu lieu, qui n'ont pas été empêchés par le gouvernement britannique, et le fait que, en particulier les travaillistes, mais aussi les libéraux démocrates ce matin, avec leur leader Tim Farron, s'expriment en disant « attention, il n'y a pas assez de mesures qui sont prises au Royaume-Uni pour agir contre le terrorisme, il faudrait davantage de dépenses en matière de police, nous disent les travaillistes. Donc on voit bien que là aussi, un peu comme pour les dépenses sociales, les travaillistes et les libéraux démocrates sont en train de critiquer les conservateurs pour ne pas dépenser suffisamment pour éviter ce genre d'attentat. En même temps, c'est toujours difficile, ces attentats, on a bien vu qu'ils peuvent se produire partout, malheureusement, que c'est vraiment très difficile de les éviter.
D'autant qu'il y a eu certes trois attaques en trois mois, mais ces derniers jours, la police britannique affirmait avoir évité cinq attentats tout de même ces derniers mois au Royaume-Uni. Mais ça pose effectivement des questions sur l'efficacité des services de renseignement britanniques.
Et c'est vrai que Theresa May a essayé de prendre les devants dans son discours hier en disant qu'il allait falloir vraiment discuter, prendre des mesures contre ces actes. Mais là, c'est vraiment une situation très très difficile et où je pense que on ne peut pas dire quel sera l'impact aujourd'hui sur les élections de jeudi.
En tout cas, les conservateurs ont de fortes chances de rester la première force au Parlement.
En principe, selon ce que nous disent les sondages, ils vont rester la première force. Après, la question, c'est est-ce qu'ils auront une majorité suffisante pour continuer à gouverner seuls ou est-ce qu'ils devront mettre en place un gouvernement de coalition ? Et dans ce cas, leur allié le plus logique, ce serait les libéraux démocrates. comme c'était le cas lors du gouvernement de 2010, mais pour juste un peu esquisser une réponse à la dernière question de votre auditeur. En fait, les libéraux-démocrates sont très pro-européens, alors que les conservateurs se sont engagés pour sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne. Et donc, la coalition conservateurs-libéraux-démocrates serait assez difficile à mener de ce point de vue-là. Et si c'était les travaillistes qui arrivaient en tête jeudi, probablement ils feraient une alliance avec les indépendantistes écossais. Et là, on aurait aussi d'un côté les travaillistes qui, du moins officiellement dans leur programme, disent qu'ils vont engager le Royaume-Uni à sortir de l'Union européenne, tandis que les indépendantistes écossais ne le souhaitent pas. Donc, si les conservateurs ne sont pas seuls à gouverner jeudi, il faudra de grandes discussions à l'intérieur des partis et des coalitions pour se mettre d'accord sur le type de négociations que les Britanniques engageront avec les autres pays de l'Union européenne.
On suivra ça évidemment avec nos correspondants et nos envoyés spéciaux. Bienvenue, on a répondu à vos questions.
Bien sûr, Juan, bien sûr, je ne peux que vous souhaiter une très bonne et excellente semaine et bien chaleur à Paris, mais ici il pleut à Porto-Nouveau.
Ah, il pleut à Porto-Nouveau. Bon, bah, bon courage à vous. Merci surtout à Catherine Mathieu qui était avec nous ce matin, spécialiste du Royaume-Uni, économiste au département analyse et prévision de l'OFCE. Il est déjà 10h21 à Paris, mais vous êtes encore nombreux au standard à nous poser des questions. On répondra d'ailleurs dans quelques instants à plusieurs questions après la décision de Donald Trump de retirer les États-Unis de l'accord de Paris. Mais d'abord, des questions sur ce scandale qui éclabousse l'Église catholique au Mali. Éric, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la radio et surtout Juan, bonjour, un gros coup de chapeau à vos confrères qui dans l'ombre vraiment exécutent un travail très 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 fabuleux pour l'exécution de cette émission. Juan.
Merci pour eux, merci à toute l'équipe évidemment qui tous les matins m'aide à vous présenter cette émission, Eleonora Farah, Darès Siradag et Benoît également ce matin en l'occurrence physiquement présents dans ce studio. Éric, des questions concernant donc cette affaire qui vient d'éclater au Mali et qui met à mal plusieurs hauts responsables de l'Église catholique.
Oui, Roi, j'ai donc suivi aussi sur les antennes, comme beaucoup d'autres, cette affaire dite Swiss Leak, donc qui accuserait donc des très très hauts religieux catholiques du Mali, en l'occurrence des évêques de Bamako, où on voit faire des virements dans un compte de la banque HSBC pour près de 12 millions d'euros. Alors, Roi, je voudrais savoir... pourquoi avoir attendu aussi longtemps afin de dénoncer donc ces virements alors que la découverte date environ de près de 2 ans? Et je voudrais savoir aussi, Juan, quelles sont les preuves vraiment sur lesquelles vos confrères se basent pour pouvoir donc apporter cette accusation?
Oui, des accusations fondées grâce aux documents SwissLeaks, ces documents qui ont révélé un système international de fraude fiscale. Les faits concernant l'Église catholique au Mali remontent à 2002. Bonjour Anthony Fouchard.
Bonjour.
Vous êtes l'un des correspondants de RFI à Bamako. Alors, la question d'Éric est pertinente. Expliquez-nous pourquoi cette affaire n'éclate que maintenant, alors que cela fait effectivement 2 ans que des journalistes du consortium international d'investigation, des journalistes d'une 60aine de pays, ont entre les mains ces fameux documents SwissLeaks.
Eh bien, il y a une explication très simple à ça, Juan. C'est tout simplement parce que la fuite des documents SwissLeaks, eh bien, c'est plusieurs dizaines de milliers de documents numériques qu'il a fallu, eh bien, analyser. Alors, effectivement, à leur sortie en 2015, quelques hauts dignitaires maliens ont été éclaboussés par le scandale, mais pas la conférence épiscopale malienne qui est, bon, passée à travers les mailles du filet à cause de ces dizaines de milliers de documents. Mais depuis peu, vous l'avez dit, ce consortium international de journalistes d'investigation, eh bien, il s'est replongé dans les archives en partenariat avec des journalistes maliens, et c'est important de le souligner, car ce sont bien des journaux locaux qui ont travaillé et qui ont révélé cette affaire de détournement de fonds présumé pour l'instant.
Alors, on parle de comptes en Suisse qui abriteraient l'équivalent de 12 millions d'euros. Sur quelles preuves reposent ces accusations ?
Alors les preuves sont vraiment très solides, hein, d'une manière totalement impartiale. Quand on lit cette enquête, c'est difficile de trouver des choses à pointer du doigt. Les journalistes ont mis la main sur des IBAN, c'est-à-dire des numéros de compte bancaire qui permettent ensuite d'effectuer des virements. Et donc pour prouver que ces comptes bancaires existaient encore et existaient tout court, eh bien les journalistes ont fait des virements sur ces comptes. Alors ces comptes qui sont au nom de certains des plus importants prélats du pays, j'en citerai qu'un seul, Monseigneur Jean Zerbo. Il vient d'être nommé cardinal par le pape et lui, selon les documents, eh bien, possédait 4,5 millions d'euros sur un compte en Suisse qu'il a détenu, eh bien, de 2002 à 2007 au moins, et qui existerait toujours puisque ce compte a accepté un virement très récemment.
Oui, beaucoup de questions en tout cas restent en suspens. D'où vient toute cette somme? Est-ce qu'il s'agit de dons versés par les fidèles maliens? Comment la communauté catholique et l'église malienne réagit-elle sur place, Anthony Fouchard?
Eh bien, la conférence épiscopale, l'Église au sens large, pour l'instant, fait le dos rond. Elle a publié un communiqué assez laconique dans lequel elle ne dément rien et surtout n'apporte aucune explication, notamment aux questions que vous venez de poser. Le seul à reconnaître à demi-mot de potentielles erreurs, c'est l'ancien président de cette structure à l'époque, c'est l'évêque Jean-Gabriel Diarra. Il est aussi visé par ces allégations. Il a aussi un compte en Suisse, selon les journalistes. Il dit que si des imperfections ont été remarquées, je le cite, il faudra les assumer. Tandis que les autres, eh bien, ils sont dans le déni le plus total. Le plus obtus étant le ministre des Affaires religieuses et du culte, Tierno Asdiallo, qui a qualifié les journalistes de Judas, cherchant à poignarder le futur cardinal. Et il faudrait préciser, Juan, eh bien que depuis les révélations de cette enquête, les deux journalistes maliens font l'objet de menaces et d'intimidations quotidiennes ici au Mali.
Oui, le ministre des Affaires religieuses et du culte qui a qualifié d'idiotie cette enquête réalisée par les journalistes maliens. En tout cas, il a dit que lui, en tant que ministre, mais aussi en tant que croyant, il trouvait cela sale et vil, en parlant évidemment de cette enquête. On suivra tout ça avec vous, Anthony Fouchard. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, Eric. Vous êtes à Berlin et merci de votre fidélité. Pierre Adan, expert en énergie et climat. Les auditeurs de RFI, évidemment, vous connaissent puisque tout au long de la COP21, vous avez décrypté sur l'antenne d'RFI les avancées des négociations, les enjeux climatiques. Bonjour, Pierre Adan.
Bonjour.
Merci de vous libérer quelques minutes ce matin pour répondre à quelques questions d'auditeurs après la décision de Donald Trump de retirer les États-Unis de l'accord de Paris. Pour commencer, nous avons Youssoufa qui est à Dakar. Bonjour Youssoufa.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Nous vous écoutons.
En effet, le jeudi dernier, le président américain a décidé de retirer les États-Unis des accords de Paris. Maintenant, je voudrais savoir quelles sont les conséquences pour le continent américain d'une telle décision.
Les conséquences pour le continent américain?
Pour le continent africain.
Ah, africain. Oui. Et c'est une question qui revient très souvent, Pierre Adan, au Standard et sur la page Facebook. Quelles répercussions pour l'Afrique?
Alors, le gros problème du retrait américain, c'est que bien évidemment Donald Trump va rechigner à contribuer au financement. Vous savez qu'on devait en 2020 atteindre 100 milliards de dollars par an de transfert des pays développés vers les pays en développement, et que bien évidemment, à l'intérieur des pays développés, il y avait quand même une grosse part qui devait être financée par les États-Unis.
3 milliards par les États-Unis, on ne peut pas les trouver ailleurs ?
Oui, mais c'est 3 milliards pour le fonds vert.
Oui, pour le fonds vert.
Le fonds vert étant une petite partie du financement. Mmh. Il faut trouver 100 milliards par an. Et donc le fonds vert n'en est qu'une toute petite partie. Bon, et donc la décision américaine, je dirais, elle est claire. Du côté de l'État fédéral, il ne faut plus compter qu'il y ait de l'argent qui soit mis dans la mise en œuvre de l'accord de Paris.
Oui.
Et c'est ça le dommage le plus important.
Mais ce manque à gagner, Pierre Adan, on ne pourra pas le remplacer?
Alors, probablement si, mais ça va bien évidemment être difficile, c'est-à-dire que le gros de la charge va reporter sur l'Europe, hein, en l'état actuel des choses. Donc la montée en puissance va être relativement plus lente, mais côté américain, les affaires sont quand même pas complètement bouclées.
Mmh.
En gros, il y a les deux tiers des États qui constituent les États-Unis, hein, les 50 États, il y en a les deux tiers qui disent, nous, on va continuer d'appliquer l'accord de Paris.
Effectivement. Et on voit bien, Pierre Adan, qu'il y a une véritable résistance aux États-Unis pour contrer la volonté de Donald Trump. On vous retrouve, Pierre Adan, juste après le journal, dans 10 minutes, avec les auditeurs, leurs questions et leurs commentaires. À tout de suite.